Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Après les inondations, la désolation, que ce soit dans l'Yonne, en Côte d'Or, en Indre-et-Loire ou dans le Pas-de-Calais cet hiver, l'eau se retire et laisse derrière elle des habitants déboussolés par des dégâts des eaux à répétition, avec à la clé des maisons parfois invivables et invendables. En première ligne, les compagnies d'assurance débordées qui tardent parfois à indemniser et qui annoncent des hausses de tarifs pour tout le monde, avec même parfois la tentation de ne plus vouloir assurer certaines zones sinistrées. Alors question, faut-il redouter une flambée de nos primes d'assurance? Jusqu'où la solidarité doit-elle jouer? Faut-il se résoudre à abandonner certaines zones condamnées par la montée des eaux? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Inondation crue, nos assurances vont flamber ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Durafour, vous êtes porte-parole d'Assureland.com, Emma Aziza, hydrologue, présidente du centre de recherche Mayan, spécialisée dans l'adaptation de notre société au changement climatique, Frédéric Danhé, vous êtes journaliste, spécialiste des questions environnementales, chroniqueur chez Marianne, et Olivier Babot, économiste, professeur à l'Université de Bordeaux, président de fondateur de l'Institut Sapiens. Votre livre « La tyrannie du divertissement », c'est chez Buchet-Chastel. Merci de participer à cette émission en direct. Emma Aziza, on va regarder quelques unes de journaux aujourd'hui en France, inondées comme jamais. Le Parisien, un début de printemps très arrosé, après un hiver où il a plu sans discontinuer, on a l'impression pendant des mois et des mois. Ça n'est pas qu'une impression, c'est mesuré. Il a énormément plu cet hiver.
Alors, il a bien plus plu que la normale, mais même, on est sur des chiffres historiques. Donc, on voit très bien à quel point il y a quelque chose d'anormal dans ces pluies. On n'est pas dans des pluies hivernales traditionnelles. On avait été tout de même habitués à avoir des hivers qui ressemblait quasiment à des sortes de non-hiver avec beaucoup moins de pluviométrie ces dernières années. On voit qu'on a basculé dans une autre dimension. La jonction s'est fait vraiment à partir de mi-décembre. On était encore dans un état de sécheresse en France. Et donc, ce qu'il se passe, eh bien, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on a une atmosphère plus chaude qui a un potentiel de précipitation plus important. À chaque degré, c'est 7% de plus de précipitation potentielle.
Donc, plus d'eau dans l'atmosphère.
Donc, il y a plus d'eau dans l'atmosphère. Mais surtout, on a des océans beaucoup plus chauds également qui dépassent tous les records actuellement, et notamment l'océan Atlantique, c'est-à-dire depuis l'année dernière, en fait, on a basculé dans le hors-norme, on est dans des conditions planétaires, que ce soit au niveau de la moyenne planétaire ou au niveau de nos océans, eh bien, sur des températures qui sont absolument records, et ça ne s'arrête jamais.
Mais faudra-t-il s'habituer à avoir des hivers ainsi pluvieux? Parce qu'on est un pays océanique, on le voit bien, et vous nous dites l'océan nous apporte, charrie davantage d'eau, donc la France sera pluvieuse l'hiver?
Alors oui et non, parce qu'en fait, eh bien, dans ce cycle de l'eau qui s'accélère tout simplement parce que c'est le premier métrique que va influencer la température, eh bien, on va avoir plus d'évaporation nécessairement dans nos océans, d'évaporation également et d'évapotranspiration dans nos continents. Ça signifie dans nos océans plus de masse d'air en suspension, plus de vapeur d'eau, donc des précipitations plus diluviennes qui vont arriver dans des rivières atmosphériques. C'est ce que l'on vit de manière successive actuellement. Et on voit très bien que par contre, eh bien, cette évaporation, lorsqu'elle se passe sur les continents, fait qu'on peut aussi rebasculer dans des états de sécheresse très rapidement. En l'espace de 3 semaines, on parle même de sécheresse éclair, à l'image des crues éclairs que l'on peut connaître.
Alors Frédéric, en attendant, là, on a des sols gorgés d'eau. Hein. Est-ce à dire, au moins la bonne nouvelle, on est allé sortir la carte des nappes phréatiques, au moins elles ont pu se recharger durant ces 3 mois de pluie?
Elles sont rechargées pas partout, sauf dans les Pyrénées-Orientales, sauf dans le sud du Massif central.
Et par rapport à il y a un an, la situation?
C'est mieux. Il y a un an, il y avait 80% des nappes à date qui étaient en dessous de leur niveau optimal, et aujourd'hui, on est à 36%. Donc, ça va mieux. Mais il n'empêche que si on se prend 2 mois de sécheresse, de toute façon, on retombera sur une situation au prochain automne où on manquera d'eau. Faut bien comprendre que c'est pas parce qu'il pleut que l'eau va s'infiltrer. Si le sol, il est déjà saturé, prenez une éponge pleine d'eau, essayez d'essuyer la table. Elle n'essuiera rien du tout parce qu'elle est pleine d'eau. Là, on a des sols qui sont pleins d'eau, en particulier dans le bassin parisien, dans le Boulonnais, où là, on est sur de l'argile. L'argile se gave d'eau. Et une fois que c'est gavé d'eau, la première goutte qui tombe, même sur une prairie, même sur une forêt, elle va ruisseler. C'est pour ça que le risque d'inondation, il est difficile à prévoir, parce que certes, c'est pas Voilà, il pleut, mais ce n'est pas parce qu'il pleut qu'on va avoir une inondation. Il va y avoir une inondation parce qu'il y aura de l'eau qui va ruisseler. Pourquoi ça va ruisseler? Parce qu'on aura des parkings, parce qu'on aura des centres commerciaux, parce qu'aussi on aura...
C'est aussi la bétonisation de nos territoires.
Il y a la bétonisation, il y a aussi le fait qu'on a retiré par endroits des haies, il y a aussi le fait qu'on cultive à contre-courbe de niveau, c'est-à-dire au lieu de cultiver comme ça, suivant les courbes de niveau, on cultive comme ça, et dans ce cas-là, l'eau, elle circule, elle suit la pente. Et puis, vous savez, un champ fraîchement labouré, comme chez moi dans le Nord, un champ de patates fraîchement labouré qui est laissé nu l'hiver, ben, il se forme une croûte de battance qui devient aussi dure, aussi étanche qu'un parking. Résultat, ben, vous avez dans le Boulonnais, dans le Montreuillois, vous avez une zone qui est plate, vous avez ici les monts de l'Artois qui véhiculent l'eau, et l'eau sur cette platitude argileuse qui est déjà pleine d'eau depuis l'hiver dernier, ben, l'eau elle stagne.
Donc il pleut davantage et nos sols, du fait de nos modes de vie, absorbent moins bien qu'auparavant cette eau.
Ils absorbent moins bien en sachant que quand on a des pluies qu'on peut qualifier diluviennes, même sur les meilleurs sols qui soient, à savoir les sols forestiers et les sols prairiaux, ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent pas absorber. Ce que je veux dire par là, c'est que pour un assureur, vu qu'on va parler des assurances, définir, évaluer le risque inondation, c'est extrêmement difficile, voire quasi impossible, parce que ça dépend de la topographie, ça dépend de l'orographie, ça dépend du type de sol, du type d'usage des sols. Et ça, c'est même pas la parcelle, c'est à l'hectare près.
Olivier Babot, c'est vrai que tout le week-end, on a vu les conséquences de ces inondations avec des habitants désolés de voir leur maison, l'œuvre... C'est le patrimoine d'une vie, hein, oui. Ravagé. Est-ce à dire que, et se tourner vers les compagnies d'assurance, est-ce à dire que les compagnies d'assurance, ben voilà, le changement climatique, elles sont en première ligne. D'ailleurs, elles doivent embaucher des scientifiques tels qu'Emma Aziza pour essayer de s'y repérer un petit peu face à ce qui leur tombe dessus.
Elles sont complètement en première ligne et elles constatent en fait l'augmentation. En fait, il y a deux choses. Il y a à la fois des événements qui sont plus fréquents et qui sont plus sévères. C'est-à-dire que vous avez les deux choses qui augmentent. L'année 2023 a été un record en termes de dépenses pour les sinistres liés au climat, à 6,5 milliards. En fait, c'est la troisième plus grande année. Les grandes années avant, c'était quoi? C'était 2022, c'était sécheresse, et puis 99, la grande tempête. Vous voyez, à chaque fois, c'est des choses différentes. C'était sécheresse, d'ailleurs, et grêle. Bon. Donc, vous êtes en face, vous êtes des assurances. Évidemment, il faut savoir que l'assurance, elle ne supprime pas le risque, elle le mutualise. C'est-à-dire qu'en fait, elle le répartit et elle fait que les gens qui n'ont pas le risque, ils vont payer pour les autres. Mais quand les risques globaux augmentent et quand ils sont en fait de plus en plus difficiles à prévoir, en fait, vous avez déjà du mal, évidemment, à équilibrer en fait les recettes et les dépenses. Donc, le fonds d'ailleurs de catastrophes naturelles est déficitaire structurellement. Et puis, à un moment donné, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, payer plus. La question aujourd'hui qui se pose,
c'est... C'est pas parce qu'on regarde ça à la télévision qu'on n'est pas concerné.
Mutualisé. C'est aussi mutualisé. Il faut savoir, par exemple, que sur votre assurance habitation et sur votre assurance auto, vous allez payer en fait une surprime catastrophe nationale. Et cette surprime, il a déjà été décidé.
Catastrophe naturelle, y compris sur l'assurance auto.
Pardon. Elle a déjà été. On a décidé qu'elle allait être élevée à partir de 2025.
Voilà, elle passe de 12 à 20%.
À 20%, voilà. Et de 6 à 9, si je ne me trompe pas, pour l'automobile. En fait, c'est tout simple. Hein. Il faut augmenter la réserve parce que, justement, il n'y en a pas assez. Le problème, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr en fait, que ça suffise. Parce que, par définition, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. En fait. Voilà. On anticipe qu'il y ait de plus en plus de ce type d'événements. Et puis, c'est l'idée de l'assurance. C'est collectivement une forme de solidarité sur les gens qui voient le risque. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir remettre en cause certains endroits, certaines maisons.
On va y revenir, bien sûr. Stéphanie Durafour, c'est ce qu'on dit. On dirait que les assureurs sont toujours promptes à augmenter leurs tarifs et beaucoup moins promptes à nous indemniser. Pourquoi je dis ça? C'est Xavier Bertrand qui a poussé un coup de gueule sur France Inter en disant il est le président de la région Hauts-de-France et il s'agace de ce que nombre des administrés n'ont toujours pas été indemnisés pour les inondations de décembre dernier. Il dit, on publiera chaque semaine le nom des compagnies d'assurance qui ne jouent pas le jeu. Il n'y a que ça qui les fait bouger. Pourquoi on a l'impression que c'est si long d'indemniser des victimes? On a bien vu que leur maison était ravagée.
Alors, la difficulté dans l'expertise des dommages qui est liée à des inondations, c'est qu'il faut attendre que l'eau se soit évacuée pour venir constater le montant des dégâts. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, on a eu plusieurs épisodes successifs d'inondations qui ont touché des sinistrés. Donc, il y a eu un premier chiffrage suite à un premier sinistre inondation, et puis un deuxième sinistre inondation qui est venu quelques semaines plus tard. Et là, il a fallu revenir constater et peut-être réévaluer le montant des dommages et parfois un troisième épisode. Donc ça, ça allonge les délais d'expertise et donc ça allonge le délai d'indemnisation de l'assuré. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on bascule dans le cadre d'une inondation, on entre dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ça, c'est un régime qui est légal, qui est basé sur un partenariat public-privé qui est encadré par l'État et les assureurs ont des délais à respecter dans le processus d'indemnisation. Donc, effectivement, c'est un processus qui est long parce que l'inondation, par elle-même, il faut attendre que ces dégâts soient complètement secs.
Ça sèche pour évaluer les dégâts.
Exactement. Et en même temps, les assureurs ont des délais légaux. Alors, en ce qui concerne les déclarations de Xavier Bertrand, les assureurs concernés ont eux-mêmes répondu. Cela représenterait 14 dossiers sur 40 000. Et les assureurs ont notamment expliqué que...
14 dossiers sur 40 000.
C'est ce que les assureurs ont déclaré en réponse.
Xavier Bertrand exagère un peu, quoi.
Et ils ont notamment expliqué, ces assureurs, qu'il s'agit de sinistrés qui avaient notamment mandaté leur propre expert parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'estimation fournie. Donc, après, il faut aller voir dossier par dossier ce qui s'est passé. Mais ça aussi, c'est des choses qui allongent les délais d'indemnisation.
Une bataille d'experts entre l'expert de l'assureur et l'expert de l'assuré. Alors, depuis le début du mois de novembre, une bonne partie de la France a donc les pieds dans l'eau, des inondations qui ont provoqué des millions d'euros de dégâts dans plusieurs régions. Cette semaine, ce sont la Vienne et Lyon qui ont été particulièrement touchés. Sujet d'Aubery Perrault, Marion de Vauchel et Claire Blondiot.
Des paysages submergés, des maisons qui semblent flotter. Depuis une semaine, une partie de la France vit sous l'eau, des crues historiques. Comme ici dans Lyon, l'Armançon est sorti de son lit. La décrue s'est amorcée, mais les dégâts sont considérables. Éric Varnier en fait l'amer constat.
C'est monté 40 cm d'eau, donc tout est usé, quoi. Tout est usé. Parce qu'après, l'essence, elle s'est mélangée. L'essence de mon moteur, de ma tourneuse, s'est mélangée. Donc, tout est mort. Hein. Tout est usé. Après, j'ai des dégâts à mes outils. J'ai des dégâts dans mes outils. Ça va encore. Mais ça, là-dedans, tout a été mouillé. Donc, c'est mort. C'est mort. Tout ce qui est électronique, c'est mort. Je peux rien faire. C'est la tuile. C'est la tuile.
À 58 ans, ce cuisinier vient d'acheter cette maison il y a tout juste 3 mois. Aujourd'hui, les pertes financières sont difficiles à quantifier.
Ah là, il y en a pour 300 euros, là, il y en a pour 300 euros. J'ai mes appareils dedans, il y en a au moins pour 1000 euros, là. J'ai facilement 2 à 3 000 euros de pertes. Et comme je n'ai pas de facture, parce que ça fait des années que je les ai achetées, j'ai le motoculteur, j'ai la tourneuse, pas de facture, donc tout pour moi. Voilà. Là-dedans.
Ces situations, ces images sont devenues presque courantes. Depuis quelques mois, la France est touchée de plein fouet par les inondations. Du nord au sud-est, en passant par le centre, les précipitations ont été largement au-dessus des moyennes. Début janvier, dans le Pas-de-Calais, la situation était critique. Des pompiers mobilisés, des riverains contraints de quitter leur maison.
C'est peut-être le plus difficile, parce qu'on a sa vie. Dans sa vie, on est là. Et puis quand on va chez les autres, on n'est pas chez soi.
Des habitants désemparés.
Exactement. Vous voyez, c'est pas possible. Hein. Même avec les cuissardes, c'est pas possible. Je sais plus quoi faire. Il n'y a pas de solution. On n'a pas encore terminé de réparer ce qui a été démoli le 11, qu'il va devoir recommencer. Quoi.
C'est d'ailleurs auprès des sinistrés que Gabriel Attal a fait sa première visite en tant que chef du gouvernement.
Tout d'un coup, à 58 ans, on voit des catastrophes pareilles. Moi, j'arrive à baisser les bras, quoi.
Vous baisserez pas les bras. Ça se sent. On sera là pour
vous. Pas certaine, mais bon.
On sera là pour vous.
Des mots rassurants, mais dans la sphère politique, le débat se crispe. Une urgence, l'indemnisation des sinistrés. Pour Xavier Bertrand, les assureurs ne jouent pas le jeu.
On est maintenant 5 mois après les premières inondations dans le Pas-de-Calais et vous avez aujourd'hui des sinistrés qui n'ont toujours pas le montant de l'indemnisation qui leur sera due. Je vais demander à l'État, aux différents représentants de mettre la pression. Visiblement, ils n'y arrivent pas, alors je fais avec mes méthodes. C'est peut-être pas les méthodes les plus convenables, mais moi je veux que ça bouge.
Si la décrue se poursuit dans le pays, depuis quelques heures, le niveau de la Seine est placé sous surveillance. Le pic de la crue est attendu demain.
Stéphanie Durafour, on a vu la grande détresse de tous ces habitants qui sont au bord de craquer en constatant leur maison ravagée.
Mais tout à fait, c'est des situations dramatiques. Pourquoi ? Parce que face à l'eau, déjà, vous ne pouvez rien faire. Et vous voyez directement vos biens, vos objets partir complètement noyés. Vous ne pouvez absolument pas les protéger. Donc ça touche à l'intime. Et ça s'ajoute, cette détresse psychologique, elle s'ajoute aussi au stress que va constituer les démarches ensuite auprès des assurances. Réunir les factures, on ne les trouve pas toujours. Elles étaient potentiellement dans la cave et elles ont été emportées par les eaux. On ne sait pas comment on fait une déclaration de sinistre, c'est compliqué. Donc oui, on a une détresse psychologique qui est amplifiée par la détresse matérielle. On voit des personnes qui doivent quitter leur logement. C'est quand même dramatique quand on est confronté à ce type
de d'électricité,
situation.
Donc on est obligé de se reloger. Alors désormais, d'ailleurs, c'est à la charge des compagnies d'assurance.
Alors depuis le début de l'année, effectivement, quand on a un arrêté de catastrophe naturelle, on a le droit à une prise en charge d'un relogement pour une durée de 6 mois.
Emma Aziza, Stéphanie Durafour disait contre l'eau, on ne peut rien. Oui. Il y a ce sentiment d'impuissance qu'on sentait bien. D'ailleurs, la dame disait, je ne sais pas si j'ai envie de baisser les bras.
Il y a plusieurs sentiments qui peuvent se mêler. Premièrement, le fait que les eaux du dehors, les eaux sales, rentrent à l'intérieur de chez soi. Donc, c'est considéré comme une situation traumatique. Il y a eu de nombreuses études qui ont été menées, même des chercheurs qui ont été vivre avec des sinistrés pour essayer de comprendre comment, en fin de compte, ils perçoivent ensuite, in fine, tout ce qui ils ont vécu. C'est clairement un traumatisme. Ce sont les eaux du dehors qui, en plus, en général, refoulent par les sanitaires. Donc, il y a vraiment cette dimension-là. Et puis, la dimension mémorielle, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes ces photos, tout ce qui appartient à notre histoire, les éléments derrière de sa famille qui vont être touchés. Donc, en fait, on a une perte d'identité. Et donc, on a pu constater, alors c'est des études qui ont commencé à être menées au Québec suite aux grandes inondations qu'ils ont connues il y a quelques années successivement, parce qu'ils avaient un peu oublier aussi qu'ils avaient un risque majeur et le changement climatique est venu le réveiller. Et donc, en fait, on a regardé le nombre de prématurés qu'on pouvait avoir dans les zones sinistrées, le nombre de fausses couches et notamment le nombre de la médicamentation qui se produit dans les 6 mois qui suivent. Et c'est assez impressionnant comme on a des taux qui flambent de manière drastique et on a des situations de dépression profonde. Et donc, une fois que l'eau s'est retirée, le traumatisme reste. D'ailleurs, vous allez voir un maire à Cuxac-d'Aude 20 ans après qui a été touché, eh bien, il a la même émotion, il a le même sentiment, et vous avez le plus grand des gaillards qui se met à pleurer, parce que, eh bien, c'est absolument terrible. On est face à une incapacité d'action, une sorte d'énorme impuissance, et donc c'est un champ de recherche qui est en train de venir en France aujourd'hui, mais on va devoir explorer, parce qu'il y a la question des inondations qui pose une question sur la santé et sur le coût pour la société de cette santé-là. On a très bien vu qu'il y a aussi des études qui ont été menées sur le coût, sur la santé des canicules. Le manque d'eau est un vrai sujet. Enfin, le changement climatique amène un sujet sur le plan économique et sociétal qu'il va falloir prendre à bras le corps.
Et puis alors, il y a les démarches administratives dont vous parliez à l'instant, et on vous dit parfois, quand vous arrivez à joindre quelqu'un au téléphone, remplissez votre dossier sur Internet. Je voudrais qu'on écoute justement Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui s'est insurgé contre ces compagnies d'assurance 100% en ligne, avec personne en chair et en os pour répondre aux administrés. On l'écoute, il était à nouveau sur France Inter.
On est dans une société où il faut remettre de l'humain dans tout ça. Certaines de ces compagnies sont des compagnies qui passent des contrats sans intermédiaire, sans personne en chair et en os. On fait les choses à distance, sauf que faire un contrat à distance, c'est pas compliqué. Mais quand il y a un problème,
on appelle, on a des disques téléphoniques,
mais
ou alors
ça peut pas se faire au téléphone, ces choses-là.
Internet.
Ça peut pas se faire avec des sites internet. Mmh. Ça peut pas se faire autrement qu'avec de l'humain. Et on est dans une société où on pensait que ça coûtait cher. Non. L'humain, ça n'a pas de prix et c'est ça qu'il faut remettre dans notre société.
Olivier Babot, on touche là les limites du tout Internet et on imagine la grande solitude quand on vous dit il faut télécharger votre facture en ligne que vous n'avez plus. Et si vous ne la téléchargez pas, le dossier, vous ne pouvez pas le valider.
Entre nous, c'est un peu une impression que beaucoup de gens ont pour beaucoup de choses, y compris le service public. C'est vrai que c'est formidable le numérique, c'est formidable quand vous maîtrisez d'ailleurs bien les outils. Parfois, vous maîtrisez moins bien les outils, et c'est d'ailleurs plus difficile à tous les niveaux. Et parfois, vous trouvez aussi très difficile d'avoir accès, quand vous êtes dans des conditions un peu particulières, effectivement, à un traitement personnalisé et donc à une réponse. Et à ce moment-là, ce qui était facilitateur devient un écran, devient une incapacité. Là, on comprend que ça soit assez ennuyeux, d'autant plus qu'on peut tout à fait imaginer que du point de vue des assurances, il y a quand même un goulot d'étranglement dans le personnel. C'est-à-dire que le nombre d'experts qui peut intervenir, il n'est pas multipliable à l'infini. Et derrière, d'ailleurs, les personnes pour réparer, pour le toit ou pour faire les réparations, aussi, tu as un goulot d'étranglement naturel, ce qui crée de toute façon de l'encombrement et un délai, bah oui, qui est difficile à vivre pour les gens qui auraient envie de reprendre une vie normale plus vite possible. Ça, c'est le premier effet. Alors, le deuxième effet à plus long terme, ça sera l'effet d'augmentation un peu nécessaire.
Frédéric Dan, et vous qui connaissez bien le Pas-de-Calais parce que vous y êtes originaire, on a vu beaucoup d'habitants baisser les bras, renoncer et vouloir quitter leur maison. Au fond, il y a cette idée qu'on n'aurait jamais dû, en fait. Et on ne veut même pas vendre la maison parce que ce ne serait pas un cadeau on aurait l'impression d'escroquer l'acheteur.
Et encore, ils ont ce sentiment-là, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en ont rien à faire et qui vendent une maison en sachant très bien qu'elle est en zone inondale. Là, il y a deux choses. Dans ce coin qui a été, dans ce pays qui a été inondé, ce n'est pas les plus riches. Et ce n'est pas les plus belles maisons, et ce n'est pas les maisons qui résistent le mieux et qui s'assèchent le plus vite. C'est des maisons, souvent des chalandonnettes, années 70, années 80. C'est des maisons qui résistent mal. C'est des maisons qui vont sécher difficilement. C'est des maisons qui vont occasionner plus de dégâts par rapport à des maisons construites en dur, en pierre de taille. C'est des gens qui arrivent souvent à la retraite, qui se sont effectivement saignés aux quatre veines pendant toute leur vie. Et leur maison, c'est la seule façon de faire hériter quelque chose à leurs enfants. Donc on rajoute quelque chose au drame, et un drame qui se multiplie. La plupart des gens savent qu'ils sont en zone inondable. Cette région-là, elle est presque artificiellement hors d'eau. Elle est au ras de l'eau, de toute façon. Et c'est encore pire.
Donc on n'aurait pas dû construire là, et d'ailleurs les anciens n'avaient pas construit là.
Oui et non. Oui et non. Il y a quand même une augmentation de l'aléa, il y a quand même une augmentation de la pluviométrie. On a augmenté le risque, effectivement, par endroit à cause de l'étalement urbain. Mais quand vous avez un endroit où votre maison est inondée une fois, puis deux fois, puis trois fois, le constat, il est simple, c'est que vous êtes obligé de partir. Et là, on va assister, sans doute, à des hameaux entiers qui seront administrativement, sans doute, rayé de la carte, ce qui s'est passé à La Faute-sur-Mer, ce qui se passe pour, vous savez, l'immeuble Signal à Soulac-sur-Mer, c'est-à-dire que l'État va racheter les maisons à vil prix par rapport à ce qu'elles valent vraiment, et les gens vont devoir aller se loger ailleurs, mais se loger où ? Sans doute aux mêmes endroits où tout le monde voudra aller pour se reloger, donc s'il n'y a pas une maîtrise foncière derrière, ça va être compliqué. C'est vraiment un drame, on crée des migrants de l'intérieur.
Alors Stéphanie Durafour, venons-en à nos primes d'assurance, qui vont augmenter cette année, nous dit-on, de 6% en moyenne en 2024, et vous le disiez, Olivier Babot, hein, les factures ne cessent d'augmenter. Bah, comme c'est vous qui les indemnisez, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini d'avoir nos primes d'assurance qui augmentent, avec même le risque que vous refusiez parfois d'indemniser certaines régions dans le Pas-de-Calais en disant là... Débrouillez-vous, parce que là, c'est sûr que vous allez y passer un jour ou l'autre.
Alors effectivement, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la hausse des primes d'assurance en 2024. Tout d'abord, c'est aussi la répercussion, vous le disiez, de la facture des risques climatiques 2022, qui était de plus de 10 milliards d'euros. 2023, 6 milliards et demi d'euros. Donc ça se répercute. Et comment on explique aussi le montant de ces factures ? On a des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, qui créent de plus en plus de dégâts. Et on a aussi un contexte inflationniste sur les matériaux de réparation. Donc tout ce qui est tuiles, béton, ciment, ça coûte plus cher. Et donc forcément, plus on a de dommages liés à ces sinistres climatiques, plus ces dommages coûtent cher en réparation, plus ça pèse directement sur les factures, notamment des assurés par la suite. Donc oui, on sait que ces factures d'assurance vont augmenter. Et l'État a acté également une hausse de cette surprime catastrophe naturelle dont vous parliez tout à l'heure. Donc pour bien comprendre ce que ça signifie, c'est qu'aujourd'hui, pour indemniser les catastrophes naturelles, on fonctionne sur un régime de solidarité nationale. On contribue tous à ce fonds d'indemnisation à hauteur de 12% sur les contrats d'assurance habitation. L'État gère ce régime. Et donc, au 1er janvier 2025, c'est 12% qui représente en moyenne, à l'échelle nationale, 27 euros par an par contrat, vont passer à 20% et ça représentera par an par contrat à peu près 45 euros. Donc, on va avoir de toute façon une augmentation de 18 euros pour toutes les personnes qui ont un contrat d'assurance habitation dès l'an prochain, sans compter les hausses que les assureurs pourront pratiquer eux-mêmes sur l'ensemble de leur portefeuille.
Alors, est-ce qu'il faut craindre une flambée de nos primes d'assurance comme on le voit aux États-Unis? Je vous propose d'écouter deux témoignages. Alors, c'est en Floride, hein, une région qui est régulièrement balayée par des ouragans. Vous allez voir, les habitants parfois ne trouvent plus de compagnie d'assurance quand d'autres doivent payer des primes ahurissantes pour pouvoir assurer leur maison. On écoute.
On paye presque 6 000 euros pour notre assurance habitation. Et j'imagine que ça va encore augmenter après ça.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup, on ne va pas se mentir.
Vous n'êtes pas assuré ?
Non.
Et c'est un choix que vous avez fait ?
Non, pas du tout. Il y a un mois et demi, mon assureur m'a annoncé qu'il quittait la Floride, purement et simplement, et que mon contrat a été résilié. Je n'ai pas encore tout chiffré, mais je serais très étonné que ça me coûte moins de 70 000 euros.
6 000 euros ?
Oui.
6 000 euros ?
6 000 euros par an, et encore, et j'ai envie de dire, cette personne a de la chance d'avoir trouvé un contrat d'assurance, parce que ce n'est pas le cas.
Emma Aziza, c'est pas, on peut ne pas s'assurer en France. C'est ça.
Alors, il y a des zones rouges hein, où il y a des agents généraux qui voudraient avoir un client et dont la maison mère va leur dire non, vous ne pouvez pas parce que tout simplement, ils ont tapé l'adresse du client potentiel et donc le risque étant tellement important, eh bien, on ne peut pas assurer. Typiquement, une ville comme Nîmes n'est quasiment pas assurable aujourd'hui. Donc,
des habitants à Nîmes
qui ne
trouvent pas de compagnie d'assurance pour assurer leur maison ou leur appartement.
Exactement, habitants ou entreprises, même s'ils ont fait des travaux, parce que ce n'est pas encore intégré dans la logique. Alors,
c'est la même chose que ce qu'on a entendu aux États-Unis, là, en Floride.
Sauf qu'il y a une obligation tout de même d'assurer, donc ils passent dans une sorte de loterie ensuite, une fois qu'ils ont trois refus, et on leur en attribue un de manière obligatoire avec le coût qui va avec. Donc, il faut tout de même avoir ça en tête, parce qu'on est dans une logique aujourd'hui où, durant des décennies, on a voulu contrôler l'aléa, contrôler le cours d'eau, on a mis des digues, on a mis en fait des sortes de remparts sur l'eau en essayant de le maîtriser. Aujourd'hui, maintenant, on essaye de tout miser sur l'enjeu. L'enjeu, c'est l'habitat, c'est la famille, c'est l'entreprise. Et donc, on va mettre en place ce qu'on appelle des méthodes de réduction de vulnérabilité. On va analyser tous les points vulnérables, un petit peu comme si on faisait un scanner, une IRM de la personne. Et on va venir trouver des solutions. L'État finance, justement, via les fonds Barnier, donc via cette solidarité nationale qui est issue de
ces assurances. On ne va plus être assureur passif. On va dire, OK, on vous indemnise, mais il faut que vous fassiez les travaux pour qu'on continue à accepter d'assurer.
Prenez une ville comme Nîmes. Eh bien, sur Nîmes, vous avez jusqu'à 100%. Vous êtes en zone inondable. Vous êtes prise en charge totalement entre la collectivité et l'État pour adapter votre bâtiment. De toutes les façons, on n'a pas le choix. On a plus de 18 millions de personnes qui sont potentiellement inondables. On ne va pas racheter tous ces biens-là. On a oublié durant des décennies ce risque. Donc clairement, il va falloir faire avec. Par contre, on peut faire avec jusqu'à un certain niveau. Quand est-ce qu'on délocalise et quand est-ce qu'on indemnise en France ? Eh bien, lorsque l'on atteint l'eau, atteint le niveau du toit refuge. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de survie possible dans le bâtiment. Et là, il faut accompagner psychologiquement les gens. Et donc, c'est aussi un travail qui est fait et qui est financé par ces fonds. Et donc, en tous les cas, toutes les villes de France...
On vous exproprie, quoi. Hein,
Alors, oui, mais on le fait quand même avec beaucoup de...
On
fait quand même attention.
Olivier Babeau, cette semaine, il y a eu un rapport rendu au gouvernement qui s'inquiète, justement, de ce que certaines compagnies d'assurance finissent par se retirer de certaines zones, notamment côtières, en disant, là, franchement, comme à Nîmes, c'est plus assurable. Et donc, on veut renforcer la mutualisation. C'est-à-dire que... Alors, est-ce que d'ailleurs... parce que ce même rapport a cette phrase suivante. Il parle des migrations vers les zones côtières ou plus ensoleillées qui sont plus sujettes aux inondations, tempêtes et séismes. Je vais caricaturer un peu, mais est-ce que le riche cadre parisien qui va acheter une maison à Arcachon, en première ligne, face à l'océan, pour admirer le coucher de soleil, il va avoir sa maison assurée par l'Auvergnat qui habite au troisième étage à Clermont-Ferrand et qui, lui, ne risque pas d'être submergé ?
Alors, c'est intéressant, effectivement, le rapport avait été commandé il y a un an. Et il a été rendu maintenant sur l'assurabilité des risques climatiques. Il est très intéressant et il propose plein de pistes. Alors évidemment, la piste principale, c'est qu'on va continuer sur la mutualisation des risques, c'est-à-dire que, effectivement, les catastrophes naturelles vont permettre aux gens qui ont le risque de bénéficier de la solidarité nationale. Mais, par exemple, il commence à dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, imaginer que les résidences secondaires, tout simplement, donc la résidence principale, ne bénéficie pas de ce régime. Donc, ça veut
dire. De la solidarité.
De la solidarité. Ça voudrait dire que les primes d'assurance de ces gens-là exploseraient. Attention, c'est juste une piste. Attention, c'est pas du tout fait. L'autre idée, c'est de dire aux assurances, on va créer un système de bonus-malus pour vérifier que vous n'êtes pas en train de déserter toutes les zones où ça commence à craindre un peu. En fait, c'est de dire, faites votre boulot et puis on vous donnera des ristournes. Ce qui est intéressant, il y a des choses à étudier parce que c'est vrai que la non-assurabilité, c'est un risque. Et derrière, vous avez aussi la sous-assurance, c'est-à-dire des gens qui ne s'assureront pas, qui vont réduire leur type de risque. C'est vrai dans plein de domaines, d'ailleurs, c'est vrai même malheureusement dans l'automobile. Vous savez que malheureusement, beaucoup de gens, et ça, c'est totalement interdit, roulent sans assurance.
Oui, autant on peut ne pas assurer sa maison, autant pour les automobiles, interdit. Non. De voilà. Ne pas assurer sa voiture. Voilà. Frédéric Dan, et votre regard sur cette mutualisation des risques et ce régime des catastrophes naturelles qui est unique au monde.
Unique au monde, et 98% des Français sont assurés quand même dans leur maison.
Mais est-ce que du coup ça ne déresponsabilise pas en disant
Bien sûr que si. La Cour des comptes, dans son rapport annuel, il y a un chapitre très intéressant sur l'adaptation de la France au changement climatique. Il y a une carte que je vous ai montrée tout à l'heure qui montre le nombre de villes en France qui sont les plus soumises au risque de submersion marine et pour lesquelles il n'y a pas de ce qu'on appelle le PPRL, le plan de prévention du risque littoral, qui est censé être pris par ces villes pour prévenir justement le risque. Et si vous avez un PPRL, vous avez une obligation d'informer les gens qu'ils vont acheter peut-être ou devoir revendre une maison avec un risque de submersion marine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le risque, globalement, on s'en fout. Et on s'en fout d'autant plus qu'on sait que de toute façon, ce sera couvert par la solidarité nationale. Ça veut dire, j'ai un exemple récent, tiens, qui est dans les dossiers du Canard sur l'immobilier, à 800 sur la côte d'Opale, c'est une ville très demandée, notamment par les Parisiens en quête de résidence secondaire. Et vous avez un risque de submersion marine et un risque d'inondation. Vous avez les deux. Et pourtant, les gens continuent à acheter, malgré le fait que les notaires et les assureurs préviennent qu'il y a un double risque, et les gens quand même continuent à acheter, et ils trouvent quand même une assurance. Et ils jouent sur le fait que de toute façon, ils seront remboursés à un moment ou à un autre.
Stéphanie Durafour, néanmoins, il faut être honnête, les assureurs vous font payer plus cher si vous êtes dans une zone à risque que si vous êtes dans...
Pas tant que ça, en fait.
Il y a quand même il n'y a pas un tarif national pour les assurances.
Non, et au contraire, on voit très bien quand on regarde la carte de France des tarifs d'assurance habitation, on a énormément de disparités entre les régions. Pourquoi ? Parce que les assureurs, ils tarifient en fonction du risque que vous représentez. Donc plus vous êtes dans une zone qui est très exposée au risque climatique, plus votre tarif, il est adapté en conséquence et va coûter plus cher. Il n'y a pas que ce critère-là qui est pris en compte pour établir les tarifs d'assurance habitation. Il y a tout un tas d'autres critères. Et on a vu notamment, et c'est un exemple très parlant, la Bretagne, qui reste la région la moins chère de France en assurance habitation.
Pourquoi ?
A vu. Eh bien, parce que c'est dans cette région qu'il y avait le moins de sinistralité. L'an dernier, c'est la région qui a augmenté le plus. Elle reste néanmoins la moins chère de France sous l'effet de l'augmentation des vols.
Donc, des cambriolages.
Oui, c'était plus 40% dans cette région, alors qu'à l'échelle nationale, on était à plus 11%. Et donc, c'est cette région où les tarifs d'assurance habitation ont le plus augmenté. Donc, il n'y a pas que le risque climatique qui définit un tarif d'assurance habitation. Néanmoins, on voit que dans les régions du Sud-Est, qui sont des régions très exposées, c'est là où ça coûte le plus cher à l'heure actuelle.
Donc vous tarifiez en fonction du risque d'inondation, du risque de cambriolage, du risque de sécheresse également avec les fameuses fissures, la RGA, c'est ça là ?
Le risque de sécheresse qui est un risque qui fait très peur parce que c'est un des risques qui est le plus coûteux aujourd'hui en matière de sinistres climatiques.
Et le moins assuré.
10 millions de maisons seraient menacées par le risque de ce qu'on appelle retrait gonflement des argiles, c'est-à-dire que le sol bouge et donc ça fait exactement comme vous montrez là des fissures.
Ça, Emma Aziza, on n'en parle pas, ça pourrait être l'objet d'une autre émission, mais il faut se méfier de tout maintenant, donc de l'eau qui monte ou du sol argileux qui fait que votre maison se fissure et qu'elle devient invivable.
Alors en plus, c'est vraiment un traumatisme pour le coup transparent parce que vous traversez le désert pour vous faire rembourser parce qu'il faut prouver qu'effectivement, à la prochaine pluie, 4 mois après, eh bien, en fin de compte, il y a eu une rétractation des argiles et un gonflement généralisé par les prochaines pluies pour un phénomène de sécheresse qui avait lieu 4 mois avant. Donc c'est très complexe déjà d'indemniser. Ça coûte beaucoup beaucoup plus cher que le risque inondation. Les assureurs n'ont pas vu venir la situation, très clairement en France. Autant le risque inondation, ça fait 20 ans, on travaille sur ce sujet, autant vraiment, ça va devenir un des principaux éléments à prendre en considération. Alors qu'aujourd'hui, il existe des solutions très simples où vous réhydratez le sol autour de votre maison, vous récupérez l'eau de pluie lorsqu'elle est disponible, vous pouvez mettre des capteurs. Et donc, en fait, ces solutions existent, elles limitent 90% du risque, elles ne sont mises en œuvre nulle part. C'est exactement comme toutes ces maisons que vous voyez inondées quand vous regardez le bassin parisien. Je peux vous assurer que si on est capable, aujourd'hui en France, d'adapter des maisons à Cannes, à Nîmes, avec la violence, avec la vitesse, avec les forces de corrosion et les matières en suspension qu'on a dans ces types d'inondations, eh bien, c'est assez facile de pouvoir préserver ce type d'habitat sur le bassin parisien.
On est mieux équipé à Cannes qu'en Île-de-France.
Oui, parce que les dispositifs ont démarré il y a très longtemps. Et là, on voit très bien qu'il faudrait appareiller tout le monde de systèmes de batard d'eau, de systèmes de clapets anti-retour. Il faudrait modifier les sols. Il faudrait s'adapter comme on est capable de s'adapter à Sommières depuis 2002. À Sommières, vous avez de l'eau qui monte jusqu'à 2 mètres de hauteur. Elle traverse la ville. Sommières, c'est sur le bassin du Vidourle, c'est dans le Gard. C'est la ville la plus inondable de France. Eh bien, les gens sont totalement adaptés. Oui. Une fois que l'eau redescend, ils passent un coup de karcher et ils redescendent les affaires du premier. Ça s'appelle la résilience et surtout vivre avec. Et il y a un autre point qui est important, c'est que là, on parle des risques qui sont connus et cartographiés. Il y a un nouveau risque d'inondation qui s'est invité dans la danse du changement climatique. C'est qu'étant donné qu'on a un cycle de l'eau qui s'accélère, eh bien, on va avoir beaucoup plus d'effets de ruissellement. L'eau n'a pas le temps de rejoindre le réseau hydrographique et la rivière la plus basse, mais elle va prendre la première rue qui va passer et donc la rue va se mettre en charge comme une rivière. Et donc là, on voit très bien que sur ces 5 dernières années, 50% des personnes qui ont été inondées l'ont été hors de zone inondable. C'est-à-dire que même si on fait bien une cartographie de zone inondable, on ne résout pas ce problème. Alors que c'est facile à regarder, à cartographier.
Alors, cet hiver, le Pas-de-Calais a été particulièrement touché par les intempéries. Certains villages ont été inondés à plusieurs reprises. Nicolas Bidard et Quentin Gilles ont rencontré des habitants épuisés par les sinistres à répétition, mais aussi par de nombreuses démarches à effectuer pour obtenir une indemnisation correcte des assurances. Reportage.
C'est un quartier devenu fantôme, inondé 3 fois, entre novembre et janvier. Dans la commune de Blandec, dans le Pas-de-Calais, des volets baissés, quelques affaires laissées devant les portes et des maisons insalubres. Vincent Maquignon habitait l'une d'entre elles depuis 20 ans.
Donc là, vous êtes dans une rue où il y a eu 1,20 m, 1,30 m d'eau. Donc depuis le 11 novembre, 8 familles sur 10 n'habitent plus dans ce quartier.
Lui en fait partie. Dans sa maison, l'humidité a imbibé les murs. Il a fallu tout démonter.
On voyait ici toutes les traces au plus haut. Hein, on est monté. Là, j'ai même pas coupé, mais l'eau était arrivée ici.
Là, c'est fini, quoi. Même les enfants ne veulent plus revenir dans ce quartier. C'est fini. On a trop peur.
Après 4 mois d'attente, son assurance vient de lui verser une indemnisation, 138 000 euros, pour une maison estimée à environ 200 000. Le reste ne sera pas pris en charge.
On a eu le chiffrage de l'assurance qui est ici, à la date, du 27 mars. Et on avait un gros questionnement sur le reste à charge. C'est-à-dire, on touchait les 2/3 immédiatement et 1/3 sur présentation de facture de travaux. Malheureusement, ici, on ne veut pas faire de travaux. J'ai assez perdu d'argent ici, je vais en perdre. Et assez de souvenirs de perdus.
Vincent Maquignon espère désormais que l'État prenne en charge le reste du montant, en rachetant la maison. En attendant, il est logé dans un appartement par son assurance, une aide qui se termine dans 1 mois. Pour lui, le temps presse.
Les délais annoncés par M. Gabriel Attal, notre Premier ministre, 11 jours pour un dossier. Nous, on est à 5 mois, on est à 1 mois de l'heure, on est à la rue, on n'a plus de logement. Donc, on est très en colère, venir voir les gens dans la misère pour faire des annonces, moi qui reste à Paris et puis qui viennent pas nous voir, quoi.
D'autres sinistrés attendent toujours des nouvelles de leur assurance.
Tout ce de ça, c'est endommagé. C'est tout ce qui a été démonté, ça.
C'est une là-bas du fond.
Ouais. Vous avez encore. Ah oui, il y a des meubles là-bas.
Dossier sous le bras, Didier Talle, un voisin, est venu prêter main forte. L'assurance, c'était justement son métier.
C'est quoi ça? Un cric. Il a pris l'eau, lui.
En fait, on fait l'inventaire. Tout ce qui a été perdu, première inondation, monsieur et madame ont changé très très vite, ont remplacé des meubles qui étaient endommagés. Donc on a du meuble neuf qui a été aussi endommagé à la deuxième inondation. Donc c'est très important de ne rien oublier.
Ici, ces habitants ignorent toujours de combien ils seront indemnisés.
L'expert, il est en faute, là. Il aurait dû vous aider, vous conseiller sur l'état des pertes. Il aurait dû passer plus de temps avec vous, même si on a beaucoup de sinistrés à voir. Quand l'expert vient, il donne les documents, débrouillez-vous avec l'état des pertes. Mais les gens ne savent pas ce que c'est qu'un état des pertes. Ils ne savent pas remplir ça. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas mettre... Ils n'ont plus les factures. Ils n'ont plus mémoire de l'année d'achat, des meubles, etc. Donc il faut tout reconstituer.
Deux fauteuils de 2021.
Pour pouvoir revenir vivre chez eux, le couple a dû avancer 50 000 euros de travaux.
Ça, c'est quand même pas normal. On est quand même en 2024. D'être dans la dèche comme ça, à cause d'une inondation, on n'y est pour rien, nous. Oh ouais, non. Il est temps que ça se termine. Il est temps que les beaux temps reviennent et qu'on reprenne le moral. Ah oui.
6500 dossiers seraient toujours en cours de traitement par les assurances, selon la préfecture du Pas-de-Calais.
Emma Aziza envoie cette dame découragée en disant il est temps que le beau temps revienne. Mais en fait, il faut avoir la force de se dire, allez, on change les choses, on n'essaye pas de refaire exactement la maison qu'on avait auparavant parce que la même catastrophe va revenir.
Bah, en fait, c'est logique. À partir du moment où vous avez été inondé par une rivière et que vous êtes dans une zone vulnérable, il faut effectivement changer et se protéger. Le problème, c'est qu'on a eu durant des années une logique assurantielle qui était de dire... On va reconstruire à l'identique parce qu'on ne veut pas que, en changeant par notre indemnisation en tant qu'assureur, eh bien, la maison, qu'on puisse l'embellir, qu'on puisse la transformer. Donc on verse de l'argent. Moi, je me rappelle dans le bassin parisien, quand on a eu les grandes crues de Nemours et Montargis, j'ai été rencontrer des sinistrés. Les gens me montrent leur nouvelle boulangerie flambant neuve. Ils ont reçu 350 000 euros d'indemnisation. Et je leur dis, mais est-ce que vous avez pensé au moins à mettre un bâtard d'eau, à mettre des protections tous ces systèmes qui évitent à l'eau de pénétrer. Et il me regarde et me dit ben « Non, mais personne ne m'en a parlé ». Et donc, je vois la situation et je comprends qu'en fin de compte, ils pourront vivre à nouveau la même situation plus tard. C'est ce qui s'est passé en 2018. Eh bien, à nouveau, une inondation de la Seine. Et donc, les gens sont à nouveau sinistrés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une logique qu'il faut changer. Alors, l'État en a pris conscience. On a une nouvelle norme qui s'appelle le Build Back Better. C'est-à-dire, on va reconstruire mieux et on va intégrer toute cette dimension. Quand on a le sinistré face à nous, on voit les dommages, on voit la vulnérabilité et on se transforme pour ne plus être vulnérable.
Frédéric Danhé, on voit bien qu'on est impuissant face à l'eau. Comment analysez-vous cette phrase de la maire de Biarritz ce matin dans le Figaro qui dit « Nous résistons partout et par tous les moyens à l'océan ». Est-ce que le combat n'est pas vain ?
Ah ben, il est déjà vain à Biarritz. Enfin, c'est l'exemple que je donne tout le temps. À Biarritz, il n'y a pas 100 mètres au bout du quai, vous n'avez pas une alerte sur le risque de submersion marine. Biarritz, c'est comme la plupart des communes du Pays Basque, sont protégées par des tas de sable qu'on appelle les wave bumpers, voilà, qui sont là pour casser la houle. Enfin, il suffit de se promener, ne serait-ce que de faire la route en voiture le long du littoral basque pour s'apercevoir que dans 20 ans, dans 30 ans, la mer, elle aura avancé de 50 ou 100 mètres.
Alors, en plaisantant, la mer évoquait la possibilité, elle le faisait en plaisantant, de déménager le casino de Biarritz à l'intérieur des terres. Un jour, elle ne le dira plus en plaisantant ?
Bah, non, mais c'est quasiment sûr. Mais c'est ce qu'a établi Hervé Le Trot quand il a dirigé l'adaptation au changement climatique de la région Nouvelle-Aquitaine. Il a dit clairement, et ça a été pris clairement par Alain Rousset, le président de la région, qu'il y aura des endroits où il faudra déménager. C'est ce que le conseil départemental de l'Aude a déjà mis en place, c'est-à-dire des travaux de rénovation de route, des conduites de gaz à rénover, ben non, c'est pas là, c'est 100 mètres derrière. Donc ça, c'est intégré par pas mal de politiques. Là où le risque est présent, et dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a quand même des choses qui ont été faites pour atténuer le risque d'inondation. C'est ce qu'on appelle la désartificialisation. C'est, on retire le macadam là où le ruisselle, on laisse le temps à la pluie d'être absorbée par le sol. C'est ce qu'a mis en place Douai, la ville de Douai, au début des années 90, après trois inondations. Et depuis que ça a été mis en place, Douai n'a plus été inondé grâce à une structure qui s'appelle Adopta et qui maintenant a ouvert un showroom de solutions à disposition de toutes les communes d'Europe à Douai.
Olivier Babeau, ce que disait Frédéric Danzy tout à l'heure, c'est que malgré ces risques de submersion et malgré ces appartements, ces maisons en front de mer qui s'écroulent, eh bien, elles continuent de se vendre comme des petits pains. Je cite le maire de Quiberville, une ville où fréquemment il y a des maisons qui sont absorbées par l'océan, que les assureurs refusent d'assurer. Ils disent, même si certains assureurs ne veulent plus s'occuper de ces maisons, elles partent quand même comme des petits pains et au prix fort avec des Allemands qui viennent chez vous en disant, on ne peut pas racheter votre villa pleine mer.
C'est assez incroyable, mais l'attrait de la vue sur mer, l'attrait de la côte est tellement fort que les gens préfèrent prendre leur risque, justement.
Ça ne veut pas dire qu'on fait l'autruche aussi face à ces...
Sans doute, mais à la limite, si on n'est pas obligé tous collectivement de payer pour eux et pour la réparation une fois que ça arrive, bon, pourquoi pas? Moi, je suis assez surpris. On parlait tout à l'heure, effectivement, il y a deux effets. Il y a l'effet coût sur le moment et puis il y a l'effet patrimonial. C'est-à-dire que votre bien, et parfois, malheureusement, c'est des gens très modestes dont c'est le principal actif, votre bien ne vaut plus rien en pratique. Là, évidemment, sur les résidences secondaires, évidemment, c'est un problème qui est différent. Sur les côtes, elles ont toujours bougé. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les Landes ont été plantées par Napoléon III précisément pour essayer de stabiliser un petit peu ce qui était
Christophe Béchu
surtout du sable.
Il y a terrain de foot qui disparaît chaque semaine, avalé par la mer, par l'océan.
En fait, on peut faire des travaux, c'est comme tout, c'est une question d'argent. On peut arriver. Si on est les Pays-Bas, ils sont quasiment sous l'eau et ils arrivent effectivement à se protéger. La question, c'est à quel moment, jusqu'où on est prêt à faire des dépenses collectives pour préserver. J'ai la sympathie pour Biarritz, évidemment. Donc, je me dis, ce serait quand même dommage d'y renoncer. Puis il y a des choses historiques. Il y a peut-être d'autres endroits où il va falloir, d'une façon ou d'une autre, y renoncer. Puis ça nous mène à un autre sujet d'ailleurs intéressant, c'est l'assurabilité des villes. Parce qu'il y a des petits villages qui commencent à avoir du mal à payer, en fait. Et eux aussi, ils ne savent pas comment faire. Alors, le rapport, d'ailleurs, recommande, finalement, on se dit, il faudrait qu'ils se mettent un peu ensemble. Il faut se grouper pour essayer d'être un peu plus puissant face aux assureurs, mais enfin, évidemment, c'est une solution qui a des limites.
Alors, le risque de submersion vient d'être évalué par les scientifiques. Des villes comme Dieppe sont menacées. On va regarder la carte, là, à horizon 2050, et c'est pire à horizon 2100, la carte de France. Est-ce à dire, voilà, que dans la Manche, voilà, on a le nombre de lotissements menacés, dans le Var, est-ce à dire en Vendée, Stéphanie Durafour, que typiquement, ce sont des départements où les assureurs... vont essayer de se défiler ou alors de faire payer plus cher, quand vous voyez cette carte.
Mais il faut surtout savoir que l'érosion en tant que telle n'est pas prise en charge par les assurances.
Ah.
Donc, si vous êtes victime de l'érosion...
Ce n'est pas une catastrophe.
Alors,
c'est la catastrophe naturelle. Même c'est juste une indemnisation de l'État ?
Non, ce sont les conséquences de l'érosion qui vont être prises en charge. Mais si vous êtes juste victime de l'érosion avec la mer qui se rapproche de votre maison, mais vous n'avez pas une submersion marine, un éboulement de terrain, vous ne pouvez pas faire appel à votre assurance.
Alors, mais concrètement, j'ai ma maison qui s'écroule parce que la falaise est tombée. Qu'est-ce qui m'arrive?
Alors, si la maison s'écroule, là, oui, potentiellement, on peut faire appel à l'assurance. Mais vous parliez de l'immeuble Signal tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment l'exemple type des conséquences de l'érosion marine. Ces personnes-là qui ont dû être expropriées de leur logement parce que la mer se rapprochait trop de l'immeuble, n'ont pas pu faire appel au fonds Barnier et donc se sont retrouvées sans rien. Et il y a eu une bataille juridique qui a duré des années et c'est l'État qui a fini par les indemniser et encore pas à la hauteur de la valeur de leurs biens. Donc l'érosion en tant que telle, malheureusement, n'est pas prise en charge. Donc quand on voit cette carte, effectivement, on peut se poser des questions sur... l'assurabilité de ces biens.
Il y a des risques non assurables. D'ailleurs, les assureurs ne prennent pas en compte tous les risques.
Il y a des risques qui ne sont pas pris en compte. Si on regarde la carte, les principaux risques, c'est sur la Côte d'Azur. Et quand vous regardez la carte de la Cour des comptes, les villes qui sont les plus menacées sont celles qui n'ont pas de plan de prévention. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis en tête qu'un jour ou l'autre, ça va arriver.
Et un autre risque qui n'est aujourd'hui absolument pas assuré, c'est le risque de rupture d'alimentation en eau potable. Plus d'économie, plus d'activité de la société. Et donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas couvert si vous avez une activité, vous êtes un coiffeur, vous n'avez plus d'eau, vous ne travaillez plus.
Est-ce qu'il faut s'interroger sur ce, je cite à nouveau ce rapport, ce migration souvent à la retraite vers des zones côtières plus ensoleillées, mais plus sujettes aux inondations? Est-ce qu'il va falloir retourner un petit peu en Auvergne ou dans ce qu'on appelle la diagonale du vide?
Alors, je lisais un rapport sur la biodiversité qui nous expliquait que la stratégie de repli du monde végétal et du règne animal, c'est un, de s'adapter, et s'il n'y arrive pas, de migrer. Eh bien, je crois que humain est en train de suivre exactement la même voie.
Voilà. Bon, alors, le département du Gard est, lui, régulièrement victime des intempéries. La ville d'Alès, notamment, a connu, il y a une vingtaine d'années, des inondations meurtrières. Alors, la mairie a décidé d'agir en proposant à certains habitants de racheter leurs maisons pour les détruire. Sujet de Léo Seux et Diane Cacciarella.
Pour Sophie et Sylvain Tiger, revenir ici, c'est se replonger dans une mésaventure dont il se serait bien passé.
C'était là ?
C'était là. C'était là, notre maison, qui était sur toute la longueur. L'entrée, une partie de jardin, tout du long.
De leur maison, il ne reste que ces quelques photos.
Donc ça ressemblait à ça ?
Ça ressemblait à ça. C'était un grand plein pied, de presque 100 mètres carrés, avec de belles terrasses, un espace paysager. C'était joli.
Une maison que vous avez achetée quand ?
Septembre 2021.
Mais seulement 3 mois après, c'est le coup de massue. Il découvre que les maisons du quartier font l'objet d'un projet de relocalisation pour prévenir le danger lié aux inondations. Les habitations les plus à risque sont rachetées pour être détruites.
On ne vit pas bien au départ. On est en colère. On ne comprend toujours pas comment on peut laisser les gens acquérir une maison alors qu'on a un projet, même s'il n'est pas ficelé, en cours de détruire une partie du quartier. Quoi. Pour mettre en sécurité les personnes, certes, mais on ne comprend toujours pas comment ça a été possible.
Dans le quartier, nombreux sont les habitants concernés, comme Pierre Guilin et Véronique Berti.
Voilà, c'est là, ça s'en va.
Oui, là, c'est déjà débarrassé.
Là, c'est déjà débarrassé. Alain, il s'en va.
Allez, il est parti déjà.
Là, sa voisine, elle s'en va aussi. Il y en a 13 ou 14. Ouais.
Partir ou non, le choix est difficile. Josiane Fernandez est encore affectée depuis qu'elle a déménagé. Elle revient voir sa maison tous les jours.
Ça faisait 40 ans qu'on était là. 2002, 1m60 dans la maison et 2014, 80 à 1m.
1m60 dans la maison, ça
oui.
Veut dire que...
Mais ça veut dire que ça me dépassait.
Voilà.
Tout simplement. On est sorti, on a sauté par les fenêtres.
Parce que sinon, dehors...
Le responsable est à quelques pas. C'est ce cours d'eau, le Grabieux.
Là, aujourd'hui, bon...
Il n'a pas l'air très agressif, hein.
Il n'est pas agressif parce qu'il n'y a presque pas d'eau. Mais l'eau est passée par-dessus le remblai, là.
Pierre fait partie des anciens du quartier. Il a connu toutes les dernières crues. Voilà, mais pas question pour lui de quitter sa maison.
Et vous avez la hauteur des crues de 2002. J'avais fait la marque, là, pour signaler la crue de 2002. Presque à mon hauteur.
C'est inquiétant.
Ouais. Ah oui, c'était inquiétant, hein. Il fallait savoir nager. Maintenant, moi, je reste parce que, bon, je ne peux pas faire autrement. Hein. Je ne peux pas faire autrement parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? Ils me donnent 170 000, je paie 15 000 si j'achète quelque chose. Je ne peux pas aller faire un crédit à 80 ans.
Véronique a, elle, finalement choisi de partir, consciente qu'en restant, sa maison perd de toute façon de la valeur.
Il y a le fait que j'ai quand même des enfants et des petits-enfants. Donc, voilà, il faut quand même être responsable pour eux. Et la deuxième chose, c'est quand même c'est le travail d'une vie. C'est l'argent de mon mari aussi, à quelque part. Donc, tout ça, ça a un impact émotionnel. Donc, on est obligé d'avancer là-dedans. Voilà.
Beaucoup d'émotions et de l'incompréhension. De l'autre côté de la rue, Rose, la voisine de Véronique, n'est pas concernée par le dispositif.
Ils nous disent que nous, on risque rien, parce qu'on a l'étage. Même s'il y a un jour 2 mètres d'eau dans le lotissement, on n'est pas concerné.
Depuis de la mort,
le sentiment d'être laissé pour compte, dans l'impasse, avec des assureurs de plus en plus réticents.
C'est terrible quand même.
Ouais. Gens, je paye plus cher, je paye très très cher maintenant. Parce que l'effet qu'on a été résilié par une assurance, déjà personne ne voulait nous prendre parce qu'on est dans un terrain inondable.
Un projet à 6,5 millions d'euros financé par l'État et l'agglomération. En tout, une vingtaine de maisons, tout un quartier voué à disparaître.
Et Aziza, on voit qu'il y a une différence de traitement entre les maisons à étage et les maisons en rez-de-chaussée. de plein pied.
Exactement, ça fait partie des critères que l'on considère parce que l'État ne pourra jamais racheter tous les biens qui sont directement exposés. Mais par contre, lorsque l'on considère qu'il n'y a pas de toit refuge possible que l'on puisse créer par des travaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mettre en sécurité en hauteur les gens, eh bien à ce moment-là, on considère que là, il faut délocaliser parce qu'on est sûr de la fin complexe, en tous les cas, dans cette situation.
Est-ce qu'on pourrait imaginer d'ailleurs que le rez-de-chaussée soit condamné ou devienne une sorte de cave et que finalement on n'achète qu'au premier ou au second étage?
Alors en réalité c'était le cas avant. Si on regarde par exemple sur les Val-de-Loire, vous avez de nombreuses habitations qui avaient à l'époque des granges qui étaient là justement parce qu'on n'habitait qu'à l'étage, parce qu'il y avait ce risque d'inondation. Au fur et à mesure, eh bien, on a construit ensuite de l'habitat, d'abord des chambres d'amis, et puis on a mis les chambres des enfants, et puis on a accéléré la vulnérabilité. Je voudrais juste revenir sur cet événement le 8 et 9 septembre 2002. Faut imaginer que on va avoir des pluies dantesques, c'est le ciel qui tombe sur la tête, sur les gares et l'Hérault. Nîmes est à ce moment-là déjà en train de gérer ses inondations. La route qui se situe entre Alès et Nîmes, c'est 3 mètres de hauteur d'eau sur la route, pour vous donner un ordre d'idée, et on est à 8 km du cours d'eau. Il va y avoir des chaînes humaines qui vont se constituer pour réussir à préserver au maximum les gens, et personne ne parle d'Alès à ce moment-là. On se dit, bah, quelque part, ils ne vivent pas le problème, on est déjà les mains derrière dans l'eau, alors que Alès est juste coupé en termes de communication, parce que la première chose qui saute, c'est l'électricité et c'est la communication, et ils vont gérer leur crise tout seuls. Donc le traumatisme, il est gigantesque là-bas, parce qu'ils se sont complètement isolés du monde, et surtout,
en 2002, la population n'a pas pu venir.
Mais on ne sait pas aujourd'hui encore, tout simplement parce que si demain vous avez une rupture de communication de tout un système, eh bien, si vous avez des bornes GSM qui ne fonctionnent plus, le téléphone filaire qui ne fonctionne plus, on n'a plus d'informations.
Ça peut aller jusque-là, donc.
Mais en fait, c'est la première chose qui se déroule lors d'une inondation.
Pas d'électricité.
En tous les cas, il y a eu un traumatisme majeur, et quelque part, je comprends ce qu'ils vivent et je comprends ce poids-là, et il faut les accompagner. Et donc, dans les dispositifs qui existent, qui sont lancés aujourd'hui par l'État et financés pour accompagner ces populations sinistrées, la première chose que l'on doit mettre, justement, comme l'aurait dit Xavier Bertrand, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on revient d'abord chez eux pour leur expliquer. C'est très compliqué de comprendre qu'on est vulnérable chez soi et qu'on va vous expliquer que vous avez une hauteur d'eau potentielle de 1m38 ou de 2m50. Et un autre élément, contrairement aux inondations qu'on a actuellement sur une grande partie de la France, là, on parle d'inondations violentes, rapides, dévastatrices et meurtrières. Donc, on est vraiment encore sur un autre niveau, et c'est pour ça que la première chose qu'on protège dans ces zones-là, c'est la vie avant le matériel.
Frédéric Danhé, autre chose qui était très frappante dans ce reportage, c'était le monsieur qui disait « Ouais, le petit ruisseau, pourtant, il n'a pas l'air méchant. Ouais. » C'est vrai qu'on ne se méfie pas de l'eau. Autant le feu fait peur, l'eau, au contraire, c'est sympathique, on s'en approche.
C'est exactement ça. Moi, j'ai toujours refusé d'habiter près de l'eau. J'habite à Brunois, il y a une rivière qui traverse, où effectivement, les maisons anciennes sont sur un premier étage, qui est la cave, qui n'était pas habitée avant. Et ces maisons-là sont à 100 mètres de la rivière, et à 50 mètres, vous avez des parpaings, des pavillons aux parpaings Béatrice, des Chalandonnettes, qui, elles, prennent l'eau quand ça déborde. Je ferme la parenthèse. Non, l'eau ne fait plus peur. On ne peut pas imaginer qu'une rivière puisse déborder. Et là, moi, les images me terrifient. Ce qu'on voit là, c'est pas une rivière, c'est un niveau. On a tellement canalisé la rivière que quand elle déborde vite, elle n'est pas ralentie avant. On a complètement oublié ça. On a considéré pendant des décennies en France l'eau comme un déchet, la pluie comme un déchet à évacuer le plus vite possible. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et en amont d'Alès, c'est recréer des méandres de la rivière, lui permettre de sortir de son lit gentiment. On a bétonné la rivière, on l'a canalisée le plus vite possible, et quand elle déborde, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter avant la ville. Là, ce qu'on a là, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien gentil, c'est très bien d'exproprier les gens, mais il faut penser à autre chose. Il faut réaménager le territoire de façon à vivre avec l'eau, de façon à ce que l'eau retrouve un cours naturel pour préserver au maximum les agglomérations qui sont en aval.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Ah, alors Emma Aziza, sait-on pourquoi il pleut autant?
Parce qu'il a fait chaud.
Vous nous avez dit, on a battu tous les records là quasiment depuis le 1er janvier.
Oui, il y a plusieurs anomalies qu'on a pu mesurer. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir sur le week-end de Pâques qui a été hors norme à tous les niveaux. On a des vents beaucoup plus importants et impactants. On a des systèmes donc cycloniques qui sont beaucoup plus, en termes de pression, qui sont beaucoup plus bas, donc beaucoup plus violents. D'où ces rivières atmosphériques d'ailleurs qui arrivent remplies d'un flux d'air chaud, rempli de vapeur d'eau. en direction de la France, qui est liée principalement à la température de l'océan Atlantique, à la température de l'atmosphère, et notamment, sans doute, parce que c'est complexe aujourd'hui d'en faire la corrélation, mais n'oublions pas qu'on est encore sur un phénomène El Niño qui réchauffe l'atmosphère mondiale et donc qui amène beaucoup plus de vapeur d'eau en suspension et qui devient des années, ce sont des années particulièrement dévastatrices en matière d'inondation.
Stéphanie Durafour, question de Daniel dans le Morbihan. J'ai 72 ans et pas d'ordinateur, mes factures sont sous l'eau, je fais quoi ?
Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est prendre des photos, qui peut être un palliatif à une facture. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les assureurs et les experts savent estimer le montant d'un bien sur la base d'une photo. Et puis, ce qu'on peut conseiller aussi, c'est de ne pas conserver ces factures dans les caves ou dans les derniers étages, oui, mais bien dans les étages intermédiaires. Ça, c'est un
vrai
conseil.
Pourquoi le dernier étage ?
Avoir aussi des inondations au dernier étage, sous les toits. Donc, on conserve bien les factures dans les étages intermédiaires et facilement accessible.
Catherine, en Côte d'Or, avec toutes ces catastrophes, le prix de l'assurance habitation ne va-t-il pas augmenter de façon explosive pour tout un chacun ? Olivier Babeau ?
Explosive, non, parce que c'est quand même réparti nationalement, mais réel. Hein, effectivement, on parle peut-être de 5, peut-être 10%, c'est compliqué à dire, mais effectivement, ça va continuer à augmenter.
Olivier Babeau, dans le temps, il y avait eu un impôt sécheresse. Va-t-on avoir un impôt inondation ? Et est-ce qu'au fond, le régime CatNat, c'est pas une sorte de
d'impôt ? Ça revient, c'est une sorte de prélèvement, parce que la plupart des gens payent ça. Donc,
prélèvement ?
En fait, c'est déjà ça, mais ce qui est vrai, c'est que derrière les assurances, il y a les réassureurs, et derrière les réassureurs, en fait, il y a l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est nous-mêmes. Je veux dire, il n'y a pas d'autres personnes que nous-mêmes qui assurons les risques collectifs. Toute la question, c'est le degré de mutualisation de ce risque-là, en fait.
Y a-t-il aujourd'hui des régions inondées qui ne l'étaient pas jadis ?
Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a un accroissement massif du risque de ruissellement, donc c'est-à-dire des zones qui sont soit très anthropisées, urbanisées, où l'eau ne trouve plus sa verticalité, elle ne peut venir que dans l'horizontalité, et donc on va avoir des mises en charge très rapides de rues. On a eu des événements à Reims en l'espace d'une heure, on a eu de nombreux épisodes partout à travers le monde. On a le même phénomène, rappelez-vous des inondations de New York, où en l'espace d'une à deux heures, d'un seul coup, le métro est complètement noyé. Donc ça, c'est un phénomène de ruissellement, et effectivement, pour ça, il faut freiner le cycle de l'eau. Ça signifie qu'il faut le freiner dans les villes et dans les champs. Dans les villes, on désimperméabilise, on crée le plus rapidement possible, parce qu'on est dans une urgence aujourd'hui, des villes éponges, et dans les champs, eh bien, on a des engins agricoles qui compactent les sols, qui les cuirassent, et donc il va falloir...
Le tracteur, à force de passer,
Et aujourd'hui,
tasse le sol, et du coup, à sol tassé, il n'absorbe plus.
Raison pour laquelle les agences de l'eau financent de la reconversion agricole. Ils demandent à un agriculteur qui fait du maïs de faire de la prairie. Pourquoi ? Ben parce que les sols prairiaux absorbent plus d'eau. Et ils demandent en gros aux agriculteurs de devenir, que leurs terres deviennent des zones d'expansion de crues, c'est-à-dire laisser l'eau déborder. C'est comme le Nil qui, avant, vous savez, dans l'Antiquité, amenait par ses alluvions la fertilité. C'est un peu la même chose. Et puis derrière, il y a du reméandrement, c'est-à-dire quand une rivière, elle fait ça, l'agence de l'eau et autres, financent un petit rivage juste pour ralentir l'eau. Ou alors, ils financent la création, c'est tout bête, c'était dans l'Hérault notamment, la création de boudins en gravier au fond de la rivière pour que ce soit pas lisse, pour que la rivière soit ralentie au maximum, qu'elle soit bloquée au maximum. C'est tout bête, ça coûte pas très cher, même si les dossiers, vous connaissez ça mieux que moi, sont très longs à mettre en place. Mais voilà, si on ne fait pas ça, ça recommencera.
Y a-t-il un risque d'effondrement des maisons après les inondations ? Stéphanie Durafour, est-ce que certaines maisons, est-ce que ça peut détruire des maisons, les inondations ?
Quand on voit des maisons qui sont inondées de façon répétée, ça peut les fragiliser. L'autre risque majeur, outre les inondations, on en a un petit peu parlé, c'est le risque lié au RGA, donc avec le risque de fissure, qui est un des risques climatiques qui inquiète beaucoup les assureurs. Pourquoi ? Parce que là, on a des maisons qui sont fendues en deux, qui sont complètement invendables et qui sont inassurables.
Et on peut avoir les deux, on peut être en zone inondable et sur un sol argileux. Oui. Donc on a l'été les fissures et l'hiver les inondations.
Tout à fait.
un assureur a-t-il le droit de refuser la souscription d'un contrat ?
Tout à fait.
Oui.
En fait, il faut bien comprendre que, au même titre que nous, en tant qu'assurés, on a le droit de choisir notre assureur, eh bien, les assureurs, ils choisissent aussi les profils qu'ils souhaitent avoir dans, dans leur portefeuille. Donc, chaque année, ils vont aller se repositionner sur tel type de population, tel type de risque, telle région. Donc, oui, ils ont le droit de refuser d'assurer quelqu'un.
Frédéric Dan et Bruno, dans le Val-de-Marne, construit-on encore aujourd'hui en zone inondable? L'exemple qu'on avait tous en tête, c'était la faute sur mer lors de la tempête
du Cintia. On construit
encore en zone inondable?
Bien sûr.
Les maires continuent de donner des permis de construire dans des zones...
Tant qu'il n'y a pas de contrôle de légalité bien fait par les préfets, on peut le faire. Comme vous êtes tout à fait... si vous êtes en zone rouge, en risque inondation, le notaire va tout faire pour vous décourager d'acheter une maison, mais les gens continuent à acheter.
Olivier Babot, Benoît, en Seine-et-Marne. Pourquoi ne pas augmenter seulement les assurances des logements construits dans des zones à risque identifiées? Ben voilà, comme dirait... Gabriel Attal, tu casses, tu payes, quoi, tu répares.
C'est une possibilité, mais ça veut dire que le prix de l'assurance, bon, pour le coup, exploserait complètement. C'est-à-dire qu'on serait à des niveaux qui feraient que, effectivement, ce serait, parfois, ça peut même dépasser la valeur de la maison, en fait, tout simplement. Donc, si vous ne mutualisez pas le risque avec d'autres gens, si le risque est quasiment certain, bah, à ce moment-là, c'est même plus assurable. En fait, les gens
sont. Il peut y avoir un ras-le-bol de la mutualisation en disant, au fond, je deviens égoïste et libéral et je ne veux pas payer pour.
C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a quand même une réflexion à avoir. Sur à quel endroit on peut avoir des maisons. Et c'est vrai que là, il pourrait être moins cher pour la collectivité d'avoir des systèmes d'expropriation bien faits avec des rachats qui fassent qu'on puisse essayer quand même de vider ces zones.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces inondations et ses conséquences. Vous restez sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée avec C'est à vous. Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.